vous retrouver. Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, dans votre émission, les résultats, les analyses et de l'actualité sportive. Ce soir, on fait le point sur les joueurs africains dans le championnat européen et un bilan africain des Jeux paralympiques de Rio, dont la cérémonie de clôture était dimanche. On attend vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous appeler en direct au 001 202 619 31 40. Je répète, 001 202 619 31 40 pour être avec nous en direct dans cette émission. Et avec nous ce soir, on devrait avoir à Kinshasa Thierry Kabundi de Top Congo FM en RDC ou encore Élisée Ongpatine de Boïcon au Bénin. Et on ouvre avec le football ce soir et la Coupe de la CAF. Tout se jouera au retour. Les Tunisiens de l'Étoile du Sahel, tenants du trophée, ont été tenus en échec 1-1 sur leur terrain par les Congolais du TP Mazembe en demi-finale allée de la CAF, qui a vu aussi Mouloudia Béjaïa et le FUS Rabat se séparer sur un score de parité 0-0 ce week-end. Tout se jouera donc au match retour le 25 septembre, même si Mazembe possède un léger avantage pour avoir marqué un but en déplacement, dont le résultat des demi-finales allées à Béjaïa, Mouloudia Béjaïa face au FUS Rabat 0-0 et à Sousse où le match se jouer entre l'Étoile du Sahel tenante du titre et le TP Mazembe 1-1. On ira tout à l'heure au Maroc pour rejoindre justement notre confrère pour qu'il nous fasse le point sur ces matchs-là. Et tout de suite, on va prendre la direction du Bénin pour retrouver Élisée Ongpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Tatiana et bienvenue au Bénin.
Merci beaucoup. Élisée, une victoire du TP Mazembe, ça fait du bien.
Oui, surtout que ce match nul a enregistré à l'arraché, puisque pour la première partie de cette explication, eh bien, les Tunisiens, les locaux ont causé d'énormes problèmes à ce club de Lubumbashi. Il faut le rappeler, vainqueur de la dernière Ligue des Champions. Et en face, c'est bien sûr l'Étoile du Sahel qui a remporté la dernière Coupe de la Confédération. C'est comme si on a assisté une nouvelle fois à la finale de la Super Coupe qui a eu lieu du côté de Lubumbashi en février dernier, remporté par les Congolais. Maintenant, cette fois, les Tunisiens évoluaient à domicile et c'est très bien illustré en première partie. Voilà que en seconde partie, eh bien, ils ont baissé un peu leur rythme, ce qui a permis donc aux Congolais de montrer d'autres visages. Et par l'entreprise de Pierre Claver Assalé, l'international ivoirien, eh bien, ils ont égalisé ce but et auraient même pu marquer d'autres buts, puisque à suivre cette rencontre, eh bien, les Congolais ont pressé énormément les Tunisiens en fin de rencontre, mais c'était sans compter sur la détermination du gardien de but tunisien qui a repoussé beaucoup de tentatives de la part des attaquants congolais. Maintenant, le match retour dans deux semaines à
le 25 septembre,
ça va être très très difficile pour les Tunisiens, puisque à Kamalondo, eh bien, les Congolais ne font pas les choses à moitié et je crois que le tout puissant Mazembe part avec un léger avantage.
Alors justement, on va voir ça avec Thierry Kabundi de Top Congo FM. Est-ce que vous êtes avec nous, Thierry? Bonsoir.
Je suis là. Bonsoir, Tatiana, et bonsoir à tous.
Alors, Thierry, on parlait de ce match retour après cette victoire du TP Mazembe. Le match retour le 25 septembre, normalement. À quoi peuvent s'attendre les Congolais à ce moment-là?
Il me semble que ce n'était pas une victoire.
Allô, Thierry?
Partout, je ne sais pas.
Oui, mais c'est un bon match.
On patine à la même chose, c'est-à-dire une première mi-temps largement dominée par la formation de Sousse, l'Étoile sportive du Sahel, tenant du titre de cette Coupe de la Confédération, qui est une seconde période bien gérée par le tout-puissant Mazembe Dangabert, qui remarquant le surnombre.
Ah, nous avons du mal à avoir Thierry. La qualité de la ligne s'en ressent un peu. On va revenir vers vous, Thierry, tout à l'heure, mais on a compris effectivement que la lecture de ce match n'est pas forcément la même face aux tenants du titre de l'Étoile du Sahel. On va poursuivre avec ces autres résultats. 2-0 en faveur des cadets maliens face à leurs homologues de l'Éthiopie. Donc là, on part chez les jeunes. C'est le score du match qui a opposé les deux équipes hier dimanche au stade Modibo Keïta de Bamako. Un match comptant pour le troisième deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans, Madagascar 2017. Écoutons la réaction du coach du Mali, Jonas Komla. Il était au micro de Siaka Traoré.
Quand vous travaillez 9 mois et que c'est la première fois que les enfants jouent à Bamako, c'est un peu compliqué. C'est ça que je les ai dit dans les vestiaires, de se calmer, de ne pas tenir compte du public, de jouer leur football, de tenir compte seulement des buts éthiopiens, de l'équipe adverse et puis voilà. Donc je pense qu'ils ont fait ça en deuxième mi-temps. Ils sont sortis un peu de leur ornière et puis on a pu marquer 2 buts. Le match retour, on va le jouer comme on a joué le match aller. On ne va pas aller là-bas pour se défendre, on va aller là-bas pour jouer crânement nos chances. On va se battre. Les Éthiopiens ne vont pas aussi jouer de la manière comme ils ont joué ici. C'est une option aussi qu'on va préparer à l'entraînement. On va mettre tous les atouts de notre côté pour aller faire un bon résultat à Addis Abeba. Je pense que ces enfants ils vont aller se battre à Addis Abeba là-bas pour vraiment arracher la qualification. Vraiment, je remercie le public, je félicite le public qui sont venus, ils nous ont soutenus de la première minute jusqu'à la dernière seconde. Je les remercie beaucoup.
Alors, on va revenir un petit peu en arrière sur ces matchs qui se sont joués au Maroc, notamment avec notre confrère Lamine Birouk qui est en ligne, en direct depuis le Maroc. Bonsoir Lamine.
Bonsoir.
Lamine, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur ces matchs, les Tunisiens de l'Étoile du Sahel, ainsi que cette égalité 1-1 face aux Congolais du TP Mazembe. Comment est-ce que vous avez analysé ce match 1-1, mais qui apparemment ressemble à une victoire pour les Congolais qui revenaient un petit peu de loin ?
Oui, certainement. Les Congolais ont réussi un bon résultat et surtout ils ont marqué en déplacement, ce qui leur procure un avantage substantiel en prévision du match retour à Lubumbashi. Pour revenir au match, ils ont mieux maîtrisé leur adversaire et ont certainement pu cerner les points forts et les points faibles de l'Étoile sportive du Sahel, qui va devoir réaliser un véritable exploit au match retour à Lubumbashi dans un contexte et dans une ambiance qui typique, c'est le moins que l'on puisse dire à Lubumbashi.
Le public ne leur sera pas forcément favorable. Effectivement, autre match qui se jouait, c'était le Mouloudia Béjaïa face au FUS de Rabat, 0-0, un score plutôt terne.
Un score terne et un duel fratricide entre deux équipes qui se sont bien étudiées. A priori, ce résultat, si on en devait regarder côté marocain, le verre à moitié plein leur convient parfaitement, même s'ils n'ont pas réussi à marquer en déplacement. Et a priori, il semble en ballottage favorable pour une éventuelle qualification en finale de la Coupe de la CAF.
Thierry, vous êtes toujours avec nous depuis Kinshasa. Thierry ?
Thierry, malheureusement, mais je suis là.
Ouais. Non, on est très content de vous avoir, mais malheureusement, la ligne n'est pas toujours parfaite. On a un petit peu avancé dans la discussion. On était en train de faire le point sur les cadets maliens face à leurs homologues de l'Éthiopie. C'était un match dans le cadre de la CAN des moins de 17 ans pour Madagascar 2017. Est-ce que vous avez pu entendre la réaction du coach du Mali, Jonas Komla ?
Non, malheureusement, j'ai pas pu l'entendre.
C'est un match que vous avez suivi ?
J'ai vu les résultats, mais j'ai pas pu suivre le match. J'étais plutôt ce week-end en mode inter-club de la CAF avec la Champions League et la Coupe de la Confédération.
Alors justement, quelle analyse ressort de ces matchs du week-end de la CAF pour vous ?
Justement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'était une belle affiche entre Mazembe et l'Étoile sportive d'Israël. Mazembe qui a bien négocié ce match, surtout la deuxième mi-temps, et qui devrait s'en servir pour son match du 25 septembre, le match retour prévu à domicile. Attention, il ne faut pas encore enterrer maintenant l'Étoile sportive d'Israël. C'est le tenant du titre. On a vu à la Supercoupe en février dernier qu'il avait mis Mazembe en sérieuse difficulté, même si les Corbeaux l'avaient emporté. Donc, ça reste encore un match très ouvert. Ils sont capables de marquer également à Lubumbashi, mais Mazembe a réalisé, somme toute, une très belle opération. Du côté en Ligue des Champions, les Amalek du Caire, bien évidemment, a réussi un bon coup, on l'a dit, j'ai suivi tout à l'heure les débats en train d'être relevés, également le fait que la formation Kairos revient en surface et on doit vraiment compter avec les Amalkaoui, comme on les appelle, en vue de cette finale de Champions League.
Effectivement, et on va prendre ce dernier résultat de l'équipe nationale, donc des moins de 17 ans du Sénégal, qui a été battue par la Guinée à Dakar 1-0 en match comptant pour la manche aller du troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN cadette prévue en 2017 en Zambie. C'était du football féminin. Et maintenant, on va passer, on va écouter tout de suite Ahmed Insi à Dakar qui nous a envoyé une réaction de ce match.
Le Sénégal a réalisé une très mauvaise opération en s'inclinant à domicile face à la Guinée sur le score d'un but à zéro. L'unique but de la partie est signé par Ismaël Traoré. Le jeune attaquant du Sully Cadet a trompé la vigilance du portier sénégalais à la 27e minute d'une belle tête suite à un corner. Pour le coach guinéen Souleymane Camara, l'objectif était de gagner et ses poulains l'ont fait.
L'objectif, c'était de gagner. Je pense que ça a été dit que physiquement, les Guinéens sont nuls et techniquement, on joue bien au ballon. Par contre, j'ai essayé d'accumuler les deux tendances pour tromper les adversaires. Donc, l'avantage pour nous, nous avons beaucoup travaillé sur l'aspect physique.
Le coach des Lyonnais du Sénégal, pour sa part, estime qu'il n'a pas de regret car l'adversaire a été supérieur à l'image.
J'ai pas de regret parce que, quand même, quoi qu'on dise, l'adversaire aujourd'hui a été meilleur que nous. Moi, je pense qu'on n'a pas joué à notre verbal. Si ce qu'on a montré, les deux matchs contre la Tunisie, aller et retour, par rapport à aujourd'hui, on n'a pas joué. On n'a pas fait aussi ce qu'on voulait faire aujourd'hui. On a raté aussi beaucoup de passes, des jours. Bon, peut-être c'est l'adversaire qui était là, mais je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas joué sur notre vraie valeur.
Cette défaite à domicile risque de compliquer la tâche aux Lyonnais qui doivent créer l'exploit en sortant le grand jeu lors de la seconde manche prévue dans 15 jours à Conakry. Dakar, Ahmed Insi, VOA Afrique.
Et on va prendre la direction des championnats européens. On prend tout de suite la route de Naples en Italie, où Koulibaly prolonge jusqu'en 2021. Le défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly a signé une prolongation de 5 ans de son contrat avec Naples. Le club anglais de Chelsea était parmi les grands clubs européens qui avaient fait les yeux doux au défenseur international, qui finalement a signé à Naples pour au moins 50 millions d'euros qui auraient émané des Blues pour l'acquisition de Koulibaly. Messieurs, une réaction, on va partir vers le Bénin avec vous, Élisée. Une réaction à cette prolongation de Koulibaly?
Oui, c'est une bonne chose pour lui. Peut-être qu'il a vu juste, il veut rester un peu à Naples pour suivre sa progression. C'est vrai que jouer du côté de Chelsea aurait pu lui permettre d'avoir encore d'autres expériences puisqu'il aura sous ses ordres, c'était Antonio Conte qu'on connaît très bien, qui maîtrise le football italien pour avoir été deux fois un champion successif avec la Juventus de Turin. Donc, c'est tellement, il a suivi quelques conseils par-ci, par-là et en tout cas, il aura encore la chance de rebondir peut-être dans un autre grand club. Et bonne opération pour Naples, puisque là, c'est tellement que sa clause libératoire a été revue à la hausse. Donc, c'est tellement que pour le vendre prochainement, ce sera une très belle affaire pour le club de Napoli.
Alors, à Naples, on a aussi l'Algérien Faouzi Ghoulam qui a pris peu de risques, l'essentiel du travail offensif étant assuré par Lorenzo Insigne. Mais il s'est quand même bien défendu lors de ce match qui opposait contre Bologne, semble-t-il. Lamine, je me dirige vers vous. Un point sur le championnat italien avec la présence des joueurs africains.
Beaucoup de joueurs africains et en particulier Koulibaly et Ghoulam qui brillent avec Naples, nouveau leader de la Serie A italienne. Il se trouve qu'ils sont dans un environnement qui leur convient à merveille. Déception du côté de la Juventus avec Mehdi Benatia qui a dû quitter prématurément le derby d'Italia face à l'Inter de Milan suite à une blessure.
Au bout de 23 minutes.
Une blessure récurrente qui risque de causer pas mal de soucis aux sélectionneurs du Maroc dans l'optique du match contre le Gabon dans quelques semaines. C'est-à-dire le 8 octobre prochain, dans le cas des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Mais a priori, bonne semaine pour les Napolitains. Ils ont gagné en Champions League à Kiev. Ils ont réussi à battre Bologne et à s'emparer des commandes de la Serie A italienne. Et cela risque de créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes du côté du public du Stadio San Paolo. Ils attendent le titre de champion d'Italie depuis l'année 90, année où Maradona avait conduit les siens à un deuxième sacre. Du côté de la Juve, c'est une grosse déception, puisque cette semaine n'a pas été véritablement propice. Un match nul en Champions League face à Séville et une défaite face à une équipe de l'Inter qui était bien mal en point. Ça ressemble à une semaine compliquée pour le club qui domine le football italien depuis quelques saisons.
On va aller faire un tour en Angleterre. Thierry, est-ce que vous êtes toujours avec nous?
Je suis là, Tatiana.
Alors, Thierry, à Manchester City, c'est le Nigérian Kelechi Iheanacho, qui a encore fait des étincelles. Il a marqué un but et il a réalisé une passe décisive lors de la victoire contre Bournemouth 4-0. C'est son troisième match de Première Ligue de suite avec un but.
Et oui, hein, il est dans une bonne dynamique avec la formation entraînée par Pep Guardiola, qui est en train de réussir un très bon début de saison, au contraire de Manchester United, entraîné par José Mourinho, qui avait bien commencé et qui là vient d'enchaîner une troisième défaite, notamment la deuxième de suite en championnat. On attend beaucoup de ce garçon et on espère le voir aller le plus loin possible. Vous savez, après Didier Drogba, après Yaya Touré qui est en difficulté justement dans ce club Manchester City, on espère voir encore beaucoup d'Africains, les Sadio Mané et consorts, émerger et briller 2002 dans ce championnat hyper médiatisé de la première Ligue anglaise.
Alors justement, son compatriote Alex Ayobi, lui, a montré que son équipe pouvait compter sur lui. Est-ce que vous avez observé justement sa performance, Thierry? Ah, nous avons perdu Thierry. Nous allons retourner vers vous, Élisée Ongpatine. Élisée, est-ce que vous êtes toujours avec nous?
5-6-5.
Alors, Élisée?
Oui, allô Tatiana?
Oui, Élisée, on était en train de faire le point sur le championnat anglais avec les joueurs africains. Et on parlait du Nigérian Alex Ayobi, qui lui a aussi montré que son équipe pouvait compter sur lui.
Bien évidemment, puisque désormais on a senti que les Africains sont souvent très suivis, j'allais dire, du côté de la Première Ligue, puisque déjà on a beaucoup de Sénégalais qui évoluent au sein de ce championnat, et d'autres également, les Nigériens, non seulement à l'Est, mais aussi il y a Odion Ighalo qui a permis bien sûr à son club de battre Manchester United. On se rappelle José Mourinho qui vient de signer une troisième défaite consécutive après avoir été battu par son éternel rival Manchester City, et surtout Pep Guardiola est bien sombré en Ligue Europa face à Feyenoord, et puis cette fois maintenant face à un championnat, une troisième défaite consécutive. C'est vrai que c'est un championnat qui réserve beaucoup de surprises puisque il faut attendre d'abord les ultimes journées pour être vraiment fixé sur le titre de champion. Mais il faut dire que depuis un certain moment, depuis pratiquement trois saisons, les Africains ont commencé par bien s'illustrer au sein de ce championnat. C'est comme si ça leur convient bien, puisque désormais la France n'est plus pratiquement un pôle pour ces Africains, mais on constate que désormais c'est la Première Ligue anglaise qui est en train de permettre à ces Africains de se faire remarquer, de se faire une valeur.
Effectivement. Lamine, si vous êtes toujours avec nous, j'aimerais bien qu'on fasse le point sur une saison bien lancée pour Mehdi Carcela González du côté de Grenade.
Du côté de Grenade, premier match, premier but pour Mehdi Carcela González. Effectivement, il arrive en provenance du Benfica Lisbonne, où il avait eu du mal à s'imposer, à avoir du temps de jeu. Dans un club comme Grenade, qui s'est séparé de Youssef Larabi, qui était un peu le buteur emblématique du club, qui est parti chercher fortune du côté du championnat du Qatar, il est un peu, la dernière recrue du Mercato. Premier match, premier but face au Betis Séville, beaucoup de dynamisme dans le jeu, et certainement qu'il aura marqué beaucoup de points pour pouvoir rester titulaire dans un club qui va devoir lutter jusqu'au bout pour le maintien, étant donné que le championnat espagnol est dominé par des clubs qui ont de la puissance économique, qui ont la possibilité de recruter, Barcelone, Real Madrid, Atlético de Madrid, et d'autres clubs qui jouent, les seconds rôles dans le championnat, genre Villarreal, Athletic Bilbao ou autre. Le club de Grenade, depuis 2-3 saisons, est condamné à lutter pour le maintien année après année, et ils auront besoin d'un excellent Mehdi Carcela González, du niveau du joueur qu'on avait connu dans le championnat belge, virevoltant avec le Standard de Liège, et qui avait attiré à la fois les convoitises des Diables Rouges et de l'équipe du Maroc, pays pour lequel il a opté, et qu'il espère peut-être rejoindre prochainement dans de nouvelles aventures, notamment avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.
Eh bien, on le lui souhaite. On va faire un dernier point rapidement avec vous, Thierry, depuis Kinshasa, sur le championnat français. Le défenseur malien de l'AS Monaco, Almami Touré, a joué son deuxième match et a connu sa première titularisation cette saison face à Rennes. C'était ce week-end.
Il a emporté 3-0. Enfin, les Monégasques l'ont emporté 3-0. Très bon défenseur qui a la chance également d'être encadré par un très très bon technicien portugais qui porte cette formation de Monaco qui est actuellement leader du championnat de Ligue 1 française. Monaco qui est sur tout le tableau, reste sur des très belles semaines des résultats, notamment en France. Monaco a battu le Paris Saint-Germain et lui je l'ai vu particulièrement. Moi, parce que j'ai suivi ce match contre le Stade Rennais, il a été plutôt bien. Il a été également bien noté par la presse française. J'ai vu que le célèbre quotidien, l'équipe lui avait collé 7 sur 10, si j'ai bien retenu. Donc, c'est bien pour lui, c'est bien pour le Mali, dont je pense toujours beaucoup de bien. On parlait tout à l'heure des moins de 17 ans maliens. C'est un pays qui pense à ses équipes d'âge dans toutes les disciplines, notamment en football. Et là encore, c'est un joyau pour cette sélection malienne. C'est un produit à venir, c'est un garçon qu'il faut suivre absolument et qu'on aura l'occasion de voir dans ce championnat français que nous suivons tous les week-ends, ici notamment à Kinshasa.
Et on rappelle que Almami Touré a à peine 20 ans. Donc effectivement, Thierry, vous avez raison, on va le suivre. On va passer tout de suite aux Jeux paralympiques. À Rio, les athlètes africains font moins bien qu'à Londres et c'était déjà la fin. Hier, c'était la cérémonie de clôture. Les athlètes africains partent de Rio avec un bilan de 99 médailles remportées lors de ces Jeux paralympiques. Les athlètes africains ont fait moins bien qu'à Londres, on le disait en 2012, où ils avaient décroché 112 médailles. Toutefois, 36 médailles en or, messieurs, Élisée, 36 médailles, c'est pas rien. 36 médailles en or. Élisée Oumpatine.
99 médailles, eh bien, 36 en or, c'est remarquable. Hein. Il faut dire que c'est vrai que l'Afrique n'a pas pu battre son record de médailles à ces Jeux. Et vous l'avez déjà cité, le nombre de médailles remportées déjà en 2004 ou encore il y a 4 ans du côté de Londres. Et une chose qui est sur le Nigeria, hein, la première nation africaine avec 8 médailles d'or, avec un total de 12 breloques. Donc, c'est dire que quelque part, même le Nigeria peut s'illustrer également du côté de l'athlétisme. La bonne performance, hein, il faut mettre du côté de la Tunisie qui a engrangé plus de 19 médailles. Et même si c'est de côté en or, la Tunisie a remporté 7 médailles. L'Afrique du Sud également sur le podium avec 17 médailles. Et il faut dire que quelque part, les choses se sont améliorées. Par contre, dans l'ensemble, eh bien, l'Afrique ne s'est pas véritablement illustrée, et faute de préparation, certainement, puisque nous savons sur le continent, il y a beaucoup d'improvisation. Peut-être que c'est cela qui témoigne véritablement cette contre-performance qui s'est déroulée du côté de Rio. Maintenant, pour les années à venir, il faut mettre ces athlètes dans de bonnes conditions, puisque ça ne concerne pas véritablement l'athlétisme. La vraie discipline d'athlétisme, hein, c'est pour des personnes handicapées. Donc, c'est dire que quelque part, il faut les suivre convenablement, hein, pour pouvoir les permettre de faire de très belles performances quand il s'agit de ces Jeux.
Merci beaucoup, Élisée, depuis le Bénin. Lamine Birouk, quel bilan vous tirez de ces Jeux paralympiques? Il y avait tout de même 315 athlètes engagés, venus de 41 pays différents. Ce n'est pas un bilan si négatif que ça?
Loin du compte, c'est même un bilan très positif. Certes, les résultats de Londres n'ont pas été réédités, mais il va falloir saluer tous ces athlètes paralympiques africains qui se retrouvent dans un contexte très difficile en termes de préparation, en termes de financement de préparation, de budget. Il faut juste se rendre compte des efforts qu'ont fournis ces athlètes pour être déjà présents aux Jeux paralympiques avec des résultats divers. Certains sont montés sur le podium, d'autres ont titillé les places du podium, 4e, 5e, 6e. Je pense que l'Afrique n'a pas à rougir dans sa globalité des performances des Jeux paralympiques de Rio. La Tunisie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, un degré moindre, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc qui améliore quelque peu sa performance londonienne. Il y avait 3 médailles d'or et 3 de bronze à Rio. Il y a eu 3 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. Et puis parler d'autres athlètes, d'autres pays qui n'ont peut-être pas pu figurer sur sur le podium, mais qui aurait certainement mérité de l'être au niveau des sacrifices de ses athlètes, au niveau des efforts consentis, sacrifices familiaux. Il faut juste se rendre compte que sur notre continent et parfois dans certains pays, le regard vers l'autre, le regard vers l'athlète paralympique est différent de celui et des attentes envers l'athlète ou le sportif normal. Il y a des pays qui consacrent un budget bien moindre aux athlètes paralympiques. Donc bravo, chapeau pour ces performances. Il va falloir peut-être tirer des conclusions et se rendre compte que ces sportifs repoussent leurs limites, qu'ils ont besoin d'une certaine reconnaissance. Il va falloir peut-être leur attribuer une plus grande part de budget pour préparer les prochaines échéances. Il y a les championnats du monde en 2017 et puis il y a une échéance un peu plus lointaine, les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020.
Effectivement, et la flamme olympique se dirigera vers Tokyo pour 2020. Un dernier mot, ce sera le mot de la fin avec vous Thierry depuis Kinshasa sur ce bilan paralympique avec nos athlètes africains.
Je partage tout à fait ce que mes prédécesseurs ont dit. Il ne faut pas faire la grise mine. On a remporté des médailles, de nombreuses médailles. Et pour saluer la performance de ces athlètes, moi je regrette un tout petit peu. Je suis de ceux qui pensent que ces Jeux paralympiques devraient se dérouler en même temps que les Jeux olympiques pour permettre à ces athlètes qui se préparent dans des conditions difficiles et qui d'être mis en lumière autant que les athlètes valides. Là, les Jeux olympiques sont passés. C'est quelques jours après qu'on passe aux paralympiques. Je ne sais pas, l'intérêt n'est plus le même, etc.
Effectivement.
J'ai toujours été pour que les mettre tous en lumière, mais je salue les performances des athlètes africains.
Merci.
Qui se sont préparés et qui continuent à évoluer dans des conditions très, très difficiles.
Merci beaucoup Thierry Kabundi en direct de Kinshasa. Merci à vous d'avoir suivi Sporama et restez connectés sur voaafrique.com pour plus de nouvelles. Bonne soirée à tous.